SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Ousmane, Chouane, bonjour, bon retour sur nos ondes.
Merci de m'avoir invité encore une fois, Audrey.
Aujourd'hui, on se parle d'un sujet qui est très populaire d'actualité, les milléniaux. On entend souvent, les milléniaux qui disent que la situation économique est beaucoup plus difficile pour eux que pour leurs parents, que c'est difficile de trouver un emploi. Et puis, des fois, il y a leurs parents, les baby boomers, qui, eux, disent que non, en fait, c'est pas plus difficile, que c'est à eux de travailler plus fort. Qui a raison là-dedans?
C'est une très bonne question. En fait, c'est plus compliqué qu'on ne pense, mais les opportunités économiques pour les jeunes partout dans le monde sont pires, ils s'empirent chaque année. Et c'est pour ça qu'ils sont négatifs et ils ont bien raison pour y être négatifs. En fait, on pensait que, il y avait une crise en 2008 et c'était le pire cas et après ça, les choses seraient mieux. Mais en fait, ce qu'on a réalisé après, 8 ans après, c'est que les choses vont de moins en moins positives et que les facteurs qui étaient très dangereux en 2008 sont encore plus dangereux maintenant. Par exemple, en Australie, en 2008, il y avait presque 2% des jeunes qui étaient dans un état de NEET. Un état de NEET, ça veut dire qu'ils sont ni en éducation, ni en training, ni en entraînement de certains types. Ils font rien, en fait. Il y avait juste 2%. Mais maintenant, c'est près de 11% qui sont dans cet état. Donc, vous voyez que c'est pas la crise qui était le problème. Il y a des facteurs structurels qui sont en contre des jeunes, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont moins d'optimisme. Et ça, c'est Australie. Australie était le meilleur pays pour ça. Pendant 40 ans, le meilleur pays pour être un jeune adulte, c'était Australie. Mais là aussi, on n'a pas vraiment une initiative ou de bonnes raisons pour être aussi positive par rapport à l'économie.
Donc, la situation empire en Australie.
Précisément. Donc, en Australie, ça s'empire et maintenant, on a au lieu de 2% de jeunes qui sont dans un état de limbo économique, on a 11%. Et si vous voyez en plus détail des fractions de la démographie jeune, c'est encore plus négatif. Je vous donne des exemples. Si vous êtes un autochtone ou un aborigène, en Australie, vous êtes 3 fois de plus, vous avez 3 fois plus de probabilité d'être dans un état de limbo économique. Si vous êtes une femme, vous avez 50% de probabilité d'être dans un limbo économique comme jeune en Australie et dans les pays de OCDE, c'est des pays entre guillemets développés, c'est 36% d'écart entre hommes et femmes, mais ici en Australie, c'est 50%. Donc il y a quelque chose de très bizarre qui se passe ici. Et bien sûr, si vous êtes un immigrant ou un nouveau arrivé ici, les choses sont encore plus compliquées et négatives pour vous. Donc, si vous êtes jeune, c'est pas le meilleur moment pour être jeune d'abord, mais c'est dans les détails qu'on remarque qu'il y a des segments des jeunes qui sont encore plus affectés dans ce pays. Et ça, c'est le meilleur pays. Donc, les autres pays comme France, Espagne, Italie, Grèce, etc., ils sont dans un état encore moins affreux.
Ah, d'accord. Donc, l'Australie, disons, ça va pas très bien, mais c'est comme le moins pire de ces pays-là.
Précisément. Je vous donne d'autres exemples. Si on veut, par exemple, au Canada, 40% des jeunes sont trop qualifiés pour le travail qu'ils font. Et là, ici en Australie, c'est 25%, donc c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que dans une période très courte de temps, vous avez des changements négatifs énormes. Donc, en 5 ans, les jeunes surqualifiés au Canada, c'est allé de 34% à 40%. Donc, un écart énorme comme ça. Donc, vous pouvez voir les choses de plus en plus négatives dans un très, très court période de temps. Et c'est ça que je veux insister. Vous voyez, donc, il ne faut pas penser que les choses peuvent être stables. Mais sinon, dans une période très courte, vous pouvez avoir à des transformations extrêmement négatives. Et les jeunes se rendent compte de ça. Et c'est pour ça qu'ils portent plainte tout le temps maintenant contre les générations plus âgées. Il faut remarquer que les opportunités pour eux dans le travail, dans le marché du travail, dans le housing, dans le marché immobilier, ils vont pas avoir le même environnement pour fonctionner comme auparavant.
Je lisais que récemment que la génération actuelle, bon, les jeunes dans la vingtaine, c'est la génération qui est la plus éduquée, mais quand même, ça les aide pas à trouver des emplois, d'avoir beaucoup de diplômes universitaires.
C'est tout à fait vrai. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus éduqués et en plus ils sont beaucoup plus alertes à ce qui se passe dans le monde. Donc à cause des réseaux, vous voyez, les social media et tout ça, ils savent ce qui se passe. Donc ils sont vraiment au courant, mais ils ne reçoivent pas un rendement pour cet investissement dans leur éducation et dans leur connaissance du monde, parce que ils investissent beaucoup pour atteindre des diplômes universitaires et tout ça, mais après ils trouvent pas un emploi qui correspond à leur éducation. Au Canada, c'est 40% des jeunes qui sont dans cet état. Et pour ça, on doit se demander si les rendements d'investir dans l'éducation sont les bonnes, sont adéquates, est-ce qu'elles correspondent à l'économie? Et en plus, il y a des tendances structurelles qui vont affecter les jeunes encore plus dans les prochains 10 ans, c'est-à-dire l'automation du travail. Donc 80%, 80%, 80% des boulots qu'ils feraient les jeunes quand ils commencent leur carrière, donc quand ils ont 23, 24 ans, ce type de boulot, 80% ne vont pas exister en 10 ans, parce que ce sont des robots, des algorithmes, les fabriques plus avancées qui vont faire ces boulots. Alors, ils vont pas avoir la même entrée dans le marché de travail. Et la deuxième chose, c'est le offshoring. Donc, il y a quelqu'un dans le, entre guillemets, tiers-monde, dans les pays en voie de développement, qui pourra faire le même boulot pour un salaire réduit. Et il sera content, mais par conséquent, on n'a pas les boulots ici pour les jeunes lorsqu'ils commencent leur carrière. Donc ces tendances structurelles, le offshoring et l'automation, ils sont vraiment en contre des jeunes à nos jours.
Donc la situation est assez négative. Est-ce qu'il y a des solutions, des pistes de solutions pour améliorer la situation?
Pour les tendances structurelles, je ne vois pas une solution à court terme. Peut-être à long terme, quand il y a une adaptation à l'économie contemporaine, à l'économie avancée, technologique, peut-être, mais à court terme, je ne vois pas. Et il y a une barrière qui est encore plus grande que les tendances structurelles, c'est un manque de reconnaissance du problème chez les vieux, entre guillemets, chez les générations plus âgées. Ils ne reconnaissent pas que l'économie est vraiment en contre des jeunes maintenant et qu'on peut avoir une, entre guillemets, génération perdue. Ce manque de reconnaissance est manifesté par exemple dans le Parlement, vous voyez, dans le Sénat, et les politiciens ici, ils disent que bon, s'ils mangeaient moins d'avocados, ils pouvaient acheter des maisons,
Oui,
tu vois, des
justement,
choses
c'est
comme
ça.
ça.
J'allais vous dire, bon, la controverse qu'il y a eu récemment, Bob Burnhousehold qui disait, bon, que si les jeunes mangeaient moins de tartines aux avocats à 20 $, ils pourraient s'acheter une maison. Mais c'est pas vrai,
Voilà.
ça.
Voilà, donc c'est quelque chose de complètement ridicule. Vous voyez, donc dans les chaînes des social media, les jeunes disent maintenant que bon, j'ai arrêté de manger d'avocat et maintenant j'ai comme une grosse maison. Non, c'est impossible, vous voyez. On peut pas, ça marche pas comme ça. En fait, les forces structurelles sont en contre des jeunes, mais les politiciens disent des choses comme ça qui sont pas réalistes. Ça, c'est, ils attaquent le lifestyle. Ils attaquent le pessimisme des jeunes. Ils disent que bon, s'ils arrêtaient de porter plainte, ils sortaient pour chercher un travail, ce serait mieux. Mais c'est pas vrai. Les jeunes font plus d'efforts maintenant qu'auparavant pour chercher des boulots. Et le problème, c'est que les boulots sont de moins en moins présents, surtout les boulots qu'on ferait au départ. Donc la première étape dans la carrière des jeunes, ils n'existent plus ou ils sont en voie de disparition. Donc, quand les politiciens ici ils disent des choses comme ça, c'est naïf, et ça démontre une naïveté et c'est pas réaliste pour les jeunes et ça augmente la frustration pour les jeunes ici dans ce pays.
Donc, si on peut peut-être pas changer la situation économique, au moins ce serait peut-être la chose à changer. Ces générations plus vieilles, justement, pour être conscientes du problème, au moins ce serait déjà un pas en avant.
Exactement. La reconnaissance serait la première étape, mais c'est plus difficile qu'on ne pense. Parce que c'est comme un mécanisme de défense pour cette génération. Ils disent que bon, ils veulent pas reconnaître en fait que c'est d'une façon c'est leur faute que l'économie est comme ça. Ils veulent dire que c'est la faute des jeunes. Et quand eux, ils étaient jeunes, ils n'étaient pas comme ça dans leur mentalité, etc. Mais ils ne veulent pas reconnaître que les circonstances étaient beaucoup plus favorables dans les années 80, par exemple, dans les années 70, par exemple. Et ce manque de reconnaissance est la barrière la plus grande. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très réalistes et ils se rendent compte de ce qui se passe. Et c'est un phénomène universel. Donc les jeunes en Australie, Canada, France, dans les pays en voie de développement, les jeunes, tous sont d'accord sur un point, que les opportunités économiques seront moins productives, ils auront moins d'opportunités, ils auront moins de choses à faire. Par conséquent, la frustration est universelle chez les jeunes dans le monde.
Merci beaucoup, Usman Chauhan, de nous avoir éclairé sur le sujet.
Merci, Audrey.